When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Vous écoutez le podcast de So Sweet Planet. Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Aujourd'hui, j'accueille dans ce podcast de So Sweet Planet la réalisatrice Lucie Vivert pour nous parler de son premier long métrage, un très beau documentaire sensible, poétique et politique au titre énigmatique « Sankara n'est pas mort » qui nous entraîne dans un voyage en immersion assez intimiste au Burkina Faso en compagnie du poète Bicontine, de ses poèmes, de la musique de Rodolphe Burger, peut-être plus connu du grand public pour son groupe Katonoma, un film dont la sortie a été un peu bousculée par les événements liés au coronavirus, donc il est sorti directement sur le net en e-cinéma sur le site La 25e Heure, et maintenant en VOD. Bonjour Lucie Vivert.
Bonjour Anne.
Comment vas-tu au milieu de tous ces bouleversements dans le monde, en France et dans ta vie professionnelle avec cette sortie un peu bousculée ?
Oui, ça va en fait. C'est vrai que c'était pas du tout ce qui était prévu. Le film devait sortir en salle le 22 avril 2020. Finalement, il est sorti en e-cinéma le 29 avril. On n'a pas glissé d'une situation à l'autre aussi facilement que ça. Au départ, on a pensé... repousser la sortie du film au mois de juin. Et puis finalement, le distributeur a réfléchi et a préféré opter pour le e-cinéma. Donc il y a eu un espèce d'aller-retour comme ça où on avait plus de temps, puis finalement on avait moins de temps. Et donc pour moi, en fait, c'est arrivé très vite. J'ai pas eu le temps de beaucoup réfléchir à tout ça. Et c'est vrai que j'ai parlé à pas mal de journalistes. On a aussi organisé une quinzaine de débats live suite aux séances, aux projections e-cinéma du film. Donc, effectivement, je ne voyais pas les spectateurs, bien sûr. Je pouvais les imaginer. Mais c'est vrai qu'ils pouvaient poser leurs questions par chat. Donc, moi, j'étais finalement assez en contact avec l'extérieur par le biais de cette sortie. Voilà. Donc, à la fois, quand j'étais chez moi, j'ai l'habitude, comme tout réalisateur, on a l'habitude de travailler seul devant notre ordinateur. Donc, voilà, ça ne m'a pas beaucoup changé. Et en plus, j'ai eu la chance d'être en lien, finalement, avec l'extérieur grâce à la sortie du film.
Avant toute chose, pour que nos auditrices et auditeurs qui ne connaîtraient pas Thomas Sankara, puisque le titre de ton film, c'est « Sankara n'est pas mort », donc pour que ces auditrices et auditeurs puissent nous suivre, est-ce que tu pourrais nous présenter Thomas Sankara?
Oui, Thomas Sankara, c'était le président du Burkina Faso de 1983 à 1987. On appelle cette période-là la Révolution. Voilà, c'est comme ça que les Burkinabés appellent cette période. Il est resté très peu de temps au pouvoir. En fait, en 1987, il a été assassiné dans des circonstances qui n'ont jamais été réellement éclaircies puisqu'il n'y a jamais eu d'enquête. Enfin, pardon, il n'y a pas eu d'enquête pendant toute la période Blaise Compaoré, c'est-à-dire pendant le pouvoir de son successeur. Et c'est seulement après l'insurrection populaire de 2014 et au moment de la transition que l'enquête a été rouverte. Donc actuellement, c'est en train de bouger, mais c'est très très récent. Il faut imaginer qu'il y a un président qui a été assassiné et pendant 27 ans, aucune enquête. Donc voilà.
Son successeur
qui était en plus un ami à lui. C'est une histoire tragique qui mériterait un film sans doute. Je crois qu'il y a certains réalisateurs qui aimeraient bien raconter cette histoire de fratricide politique, on va dire. Donc voilà, c'était le président du Burkina. Il était jeune, il était charismatique, il était très simple d'accès, il était très drôle, il avait vraiment le sens de la formule. Voilà, vous pouvez trouver ses discours à la fois dans le film, il y a certaines archives. Assez peu finalement, mais il y en a quand même quelques-unes qui sont assez marquantes. Mais voilà, vous pouvez même trouver ses discours sur Internet. Et c'était surtout un homme d'action. Il a vraiment mis en œuvre beaucoup, beaucoup de choses au Burkina, toujours en essayant d'impliquer au maximum la population. Il y avait vraiment l'idée comme ça que la population devait prendre en main son avenir, son destin, son développement, et faire les choses par elle-même et ne pas toujours attendre l'aide des grandes instances internationales ou des anciens colons. Voilà. Bon, c'était quelqu'un de, évidemment, plutôt, en tout cas, très préoccupé de justice sociale et économique. Mais il était aussi visionnaire. C'était quelqu'un qui lisait beaucoup, qui s'est inspiré de très nombreux autres hommes politiques. Et notamment, il était féministe, vraiment très, très féministe, au sens où il a impliqué les femmes dans les plus grandes. Il a nommé des femmes dans des rôles politiques et dans l'administration très haut placés.
Il demandait au mari d'aller une fois par semaine faire les courses.
Tout à fait. Il était capable comme ça pour... comme il faut imaginer que la population burkinabé à l'époque, elle était très peu alphabétisée. Donc, pour impliquer la population, il était très fort à la fois dans ses slogans, dans son sens de la formule, mais aussi en mettant en œuvre des choses très simples que tout un chacun pouvait comprendre. Et ça a été effectivement très, très loin dans les choses qui peuvent faire rire, mais c'est vrai qu'il y avait cette fameuse journée du marché, je crois que c'est comme ça qu'on l'appelle, où le marché était interdit aux femmes, à part les vendeuses. Hein. Bien sûr, les vendeuses pouvaient... Mais voilà, pour faire ces courses, seuls les hommes étaient acceptés. Donc, si les hommes voulaient manger, ils étaient obligés d'aller eux-mêmes au marché, en gros. Voilà, et puis il était très visionnaire aussi en écologie. C'était quelqu'un qui était très préoccupé par la déforestation, la désertification. Hein. Le Burkina, c'est un pays sahélien.
Il a travaillé, d'ailleurs, on le sait peu en France, mais avec Pierre Rabhi.
Tout à fait. Voilà, on raconte, je n'ai jamais vérifié, mais on raconte que assez vite, quand il a pris le pouvoir, Thomas Sankara a contacté Pierre Rabhi. Il avait entendu parler de lui et il l'a contacté. Donc Pierre Rabhi aussi explique dans certaines interviews que il a reçu un coup de fil un jour d'un inconnu au Burkina Faso qui s'appelait Thomas Sankara et qui l'invitait. Voilà, je pense qu'il s'est déplacé et encore aujourd'hui, il y a des fermes agroécologiques au Burkina. Voilà, donc ça fonctionnait. Bien sûr, ensuite, avec la période Blaise, c'était un peu moins à la mode, mais ça a fonctionné et il en reste encore aujourd'hui des traces au Burkina. Donc voilà, il avait quand même comme ça, avec sa jeunesse, son audace, son originalité et puis son énergie, beaucoup marqué la population, mais il a aussi joué un rôle à l'international parce que par rapport au discours et aux prises de position qu'il a pu avoir pendant le temps où il était président, par exemple, il a vraiment marqué... tout le continent, hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, on le compare, c'est un gros raccourci, mais c'est vrai que ça permet de mesurer l'importance de cet homme politique en Afrique, on l'appelle le Che Guevara africain, à la fois avec toute cette force du mythe, et en même temps aussi, c'est un raccourci parce que c'est pas forcément les mêmes parcours politiques et exactement les mêmes idées, mais il y a beaucoup de similitudes, et notamment le fait qu'ils se sont fait assassiner très tôt.
Il a aussi beaucoup travaillé, j'ai vu, il était très préoccupé par l'accès à la santé, il a défendu beaucoup l'autosuffisance alimentaire, lutter contre la corruption.
Tout à fait.
Un chef d'État idéal.
Oui, alors il a des détracteurs. Il a des détracteurs, bien sûr.
Oui, j'ai lu quelques controverses.
Bon,
oui, bien sûr.
Ils sont très, très minoritaires. La révolution, il y a des choix à faire et dans tout choix. Il y a forcément des personnes qui sont frustrées. C'est souvent le mot qu'utilise Bicontine, le personnage principal du film. C'est pas du tout l'objet dans le film, il n'en parle pas, mais dans tous les débats qu'on a pu avoir à l'occasion de la sortie du film, il parle de frustration, c'est-à-dire que forcément, à un moment d'une révolution, il y a des gens qui étaient mieux positionnés avant la révolution, forcément, ils y perdent quelques plumes au passage. Donc forcément, il y a des personnes frustrées. Il y avait aussi des problèmes dans la fonction publique parce que Sankara a quand même beaucoup demandé à sa population, et notamment aux fonctionnaires. Donc, il y a eu aussi des gens qui n'ont pas accepté cette exigence-là. Donc, il a aussi des détracteurs, mais ils sont très minoritaires. Et comme vous dites, on pourrait en parler longtemps. Hein. Thomas Sankara, c'était vraiment un homme politique exceptionnel. Il faisait feu de tout bois, c'est-à-dire qu'il a vraiment mis en œuvre des choses et réfléchi à tous les aspects de la vie sociale, économique, politique du pays. Donc effectivement, il y avait l'accès au logement, il a construit énormément de cités, on appelle ça des cités, mais en fait c'est un ensemble de petits pavillons comme ça. L'accès aux soins, c'était très important. Et puis la corruption, effectivement, c'était un de ses chevaux de bataille principaux, puisque il a aussi rebaptisé donc le pays des hommes intègres, Burkina Faso. Oui. Littéralement, ça veut dire « pays des hommes intègres ». Et ça, c'était très important. Et les Burkinabés, aujourd'hui, en sont très fiers de cette appellation, bien sûr. Et ils essaient, en quelque sorte, d'être à la hauteur de cette appellation. C'est pas toujours facile. Faut imaginer l'injonction que ça représente. Oui. Mais il y avait vraiment cette idée d'être des hommes dignes, à la fois face à l'adversité, mais aussi par rapport à soi-même, une certaine exigence par rapport à soi-même. Il a vraiment incarné ça, Thomas Sankara, et c'est ce qui reste encore aujourd'hui, je crois, dans l'esprit des Burkinabés.
Avant de parler un peu plus et beaucoup du film lui-même, toi, tu étais déjà dans le milieu de la réalisation, mais tu n'avais pas encore réalisé. Tu as collaboré sur des films.
J'ai fait deux petits courts-métrages autoproduits, oui. Voilà, toute seule. Donc, j'avais déjà eu envie.
Mais c'est souvent un premier pas.
Tout à fait. Et peut-être que j'aurais jamais osé me lancer dans la réalisation de Sankara n'est pas mort si 10 ans plus tôt je n'avais pas fait ces petits films, parce qu'à chaque fois on apprend bien sûr beaucoup en faisant. Enfin, moi en tout cas, c'est un peu ma méthode et c'est vrai que ça a dû compter à un moment donné.
Est-ce que tu peux nous décrire le contexte au moment du tournage de ce film ? Parce que c'est un moment un peu particulier, je crois, hein, une forme de parenthèse presque dans l'histoire de ce pays. C'était en 2017, mm-hmm. je crois. 2016 ou 2017 ?
Juste pour un peu rétablir en grand résumé, petit résumé plutôt, la chronologie des événements. Thomas Sankara, il était président de 1983 à 1987. Ensuite, Blaise Compaoré, son successeur, est resté 27 ans au pouvoir. Donc, au bout d'un moment, quand même, la population a voulu tout simplement changer. On en reparlera certainement. Mais donc, il y a eu une insurrection populaire en 2014 qui a poussé à la démission Blaise Compaoré, qui a finalement fui et qui s'est réfugié en Côte d'Ivoire. Donc voilà, 2014, pour moi, c'est le point de départ hein, du film. Moi, j'étais déjà allée au Burkina, mais on va dire que le déclic, c'est vraiment cet événement-là. Mais moi, je n'étais pas sur place et je ne voulais pas traiter de l'événement lui-même. C'était ni mon envie, ni mon rôle, ni... Voilà. C'était l'après. Qu'est-ce que c'est le Burkina Faso après l'insurrection populaire ? Et bon, voilà, faire un film, c'est d'abord réfléchir, écrire, chercher des financements, etc. Et donc, je suis partie en tournage. J'ai fait des allers-retours, bien sûr, de repérage, mais je ne suis partie en tournage avec Bicontine qu'en 2017, donc 3 ans plus tard.
Oui, c'est ça. Mais tu y étais allée déjà plusieurs fois avant l'insurrection ?
Non, une seule fois en 2012.
Une seule fois ?
Oui, une seule fois en 2012, mais c'était d'accord. Ma première fois au Burkina et la première fois aussi sur le continent africain. Et bon, j'imagine que ça fait ça à quand même pas mal de personnes qui découvrent l'Afrique pour la première fois. C'est très marquant. Après, il y a les spécificités par pays. Et c'est vrai que le Burkina, voilà, ça m'a beaucoup marqué, notamment par rapport à cette ambiance politique. Bon, voilà, il y avait quand même une espèce de révolte sourde. Blaise Compaoré était là depuis 25 ans à l'époque. Donc voilà, il y avait des jeunes. Hein, parce qu'en fait, au Burkina, la population est très jeune. Je crois que l'âge moyen au Burkina, c'est 18 ans. Donc voilà, il faut vraiment imaginer qu'en 2014, Blaise Compaoré est là depuis 25 ans. La plupart des Burkinabés n'ont connu que lui, en fait. Voilà, donc en 2014, ils descendent dans la rue massivement et très vite. Hein, ça a pris quelques jours. Blaise Compaoré n'a pas d'autre choix que démissionner et partir. Et donc après l'insurrection, il y a eu un an un peu d'euphorie pendant la transition. Voilà, il y a eu un gouvernement de transition où on a eu l'impression que un peu tout était possible, c'est vrai. Il y a eu vraiment des réformes qui ont été lancées. Voilà, il y avait quelque chose qui semblait fonctionner. Et puis il y a eu les élections qui ont été saluées par tous les experts comme étant des élections qui se sont bien passées au niveau démocratique, accès aux informations, tout ça. Mais aujourd'hui, bon, c'est plus compliqué. Et c'est un peu aussi ce que le film relate. Là, c'est sûr que les difficultés s'accumulent. Mais pas seulement. Voilà, c'est aussi la force des Burkinabés, c'est que voilà, ils vivent dans un pays difficile depuis longtemps et il y a aussi cette force, hein, cette combativité de tous les jours. Et le film en rend compte aussi, je crois.
Oui, et c'était aussi donc l'année des 30 ans de la mort de Thomas Sankara.
Tout à fait, oui, merci de me le rappeler. Ça faisait partie de mes choix. C'est-à-dire que le tournage, je voulais plus trop tarder parce que je sentais bien aussi que les choses se diluaient un petit peu, que certes, c'était bien de prendre du recul, mais que si j'attendais trop longtemps pour partir tourner, les gens allaient tout simplement être passés à autre chose, ou en tout cas, l'insurrection serait un peu moins dans leurs préoccupations immédiates. Donc voilà, 2017, c'était a priori la bonne année pour partir tourner. De toute façon, je n'étais pas prête avant. J'ai choisi le créneau, la fenêtre septembre-décembre pour plein de raisons, mais notamment parce qu'il y avait effectivement les 30 ans de la mort de Thomas Sankara qui allaient être célébrés le 15 octobre. Et on y a assisté avec Bicontine. C'est d'ailleurs la manifestation qu'on voit à Ouagadougou, la marche qu'on voit dans les rues à Ouagadougou. Alors, il y a bien sûr les images d'archives de l'insurrection, mais quand on est dans le temps du voyage du poète, qu'on est dans le présent, on voit aussi une marche à Ouagadougou, et c'est pour les 30 ans de la mort de Thomas Sankara.
Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de Bicontine ? Parce qu'il est vraiment attachant, hein, Bicontine. On a vraiment plaisir à l'écouter. L'écouter, oui, parce qu'il y a aussi toute cette poésie. Il a vraiment un regard sur les choses qu'on sent particulier. Bicontine, ça veut dire, je l'ai appris dans le film, enfant-adulte. Ça lui va vraiment bien, je trouve, en plus. Comment tu l'as rencontré ? Qu'est-ce qu'il faisait ? Et comment en as-tu fait le principal personnage de ton
film. En fait, Bicontine, je l'ai rencontrée dès mon premier voyage au Burkina, donc avant même de penser à faire un film, hein, en 2012. Et à l'époque, donc moi, j'étais partie rendre visite à une amie enseignante, une amie française qui enseignait dans un village. Pendant ce séjour, en fait, il y a un conteur qui est venu, qui a fait une intervention auprès des élèves dans l'école, et c'était Bicontine. Voilà, c'est comme ça que je l'ai rencontré. On a sympathisé très vite. Voilà, Bicontine, c'est quelqu'un qui parle facilement de tout. Voilà, c'est un autodidacte en plus. Il a pas été loin à l'école, hein, c'est ce qui est quand même assez extraordinaire. Il a été à l'école que jusqu'en CM2. Donc tout ce qu'il a appris, il fait pas étalage de son savoir dans le film, mais il écrit des poèmes. Voilà, son approche.
On le sent. Quand il cite Césaire et Senghor et tout ça, et qu'il connaît par cœur, on voit qu'il y a...
il a plutôt une approche originale des choses, une vraie indépendance d'esprit qui m'intéressait, enfin qui m'a plu. Et puis au bout d'un moment, il m'a fait lire ses poèmes. Il a toujours écrit, je crois que depuis l'âge de 20 ans, il écrit, mais pour lui-même. Il fait très peu lire, seulement à certains amis. Bon voilà, il m'avait fait découvrir deux, trois poèmes, deux, trois textes comme ça, et j'avais trouvé ça très beau. Mais voilà, moi j'étais pas réalisatrice... Je suis rentrée chez moi en France, et c'est seulement donc au moment de l'insurrection, j'y suis restée en contact avec lui, mais c'est seulement au moment de l'insurrection, donc comme je le disais, que le déclic s'est fait, que j'ai eu envie de faire un film à propos de ça. Et ça m'a paru une évidence tout de suite, hein, de ne pas faire le film seul, mais plutôt de voir les choses, d'essayer d'approcher les choses à travers le regard d'un Burkinabé, et donc Bicontine, puisque voilà, ça me paraissait être la bonne personne, à la fois par rapport donc à son indépendance politique, voilà, et par rapport à ses poèmes, bien sûr.
Qu'est-ce que tu lui as proposé comme projet? Comment tu lui as présenté ça?
Alors au début, parce que...
C'était pas rien quand même, non. Pour quelqu'un qui a l'air en même temps assez... On sent qu'il a le contact facile, mais on sent aussi qu'il est très sensible. C'était pas facile pour toi, une fille blanche, débarquer avec une caméra, en plus lui demander d'aller parler à d'autres gens et d'assumer qu'il est poète. Et c'est beaucoup de... Enfin, j'imagine, ça devait être...
Oui. Alors ça s'est fait par étapes, hein, la première fois que j'ai attendu. Bon, je lui ai dit que j'avais une idée de film, ça c'était à distance. Mais voilà, j'ai pris l'avion, je suis allée le voir à Bobo-Dioulasson, il n'est même pas à Ouagadougou. Et puis voilà, il y a un peu le côté protocolaire quand on veut dire quelque chose d'important en Afrique en général, et puis au Burkina en particulier. Voilà. C'est un moment important, solennel, et donc je vais expliquer mon idée de film. Mais à l'époque, ce n'était même pas exactement le film tel qu'on peut le découvrir aujourd'hui. C'était presque plus autour de Thomas Sankara, on va dire. Et puis petit à petit, voilà, ça s'est rétabli par rapport au pays, l'insurrection, etc. Et bon, Bicontine, c'est quelqu'un qui admire énormément Thomas Sankara, qui n'en fait pas, il se dit pas, il se prétend pas sankariste, il le dit, hein, il n'est pas, mais en fait, il apprécie l'homme, Thomas Sankara, parce que c'est vrai qu'avant d'être un homme politique exceptionnel, Thomas Sankara, c'était un homme exceptionnel. Et c'est cette humanité-là, souvent aussi, qui est qui a beaucoup marqué les gens, et Bicontine en particulier. Donc voilà, le fait que je veuille faire quelque chose avec lui, autour de Thomas Sankara, en plus il y avait l'idée de voyager, bon, tout ça c'était quand même assez excitant pour lui. Donc il était d'accord. Après, quand il a été question de la caméra, plus concrètement, c'était plus compliqué, parce que Bicontine n'aime pas qu'on filme l'Afrique, qu'on prenne des photos de l'Afrique, et c'est tout à fait légitime, voilà, parce qu'il se méfie. Ça a été compliqué au début, parce que il était très méfiant, mais quelque part, ça a été très bénéfique, je pense, pour le film, parce que ça m'a tout de suite mise en face de mes responsabilités, et j'ai intégré, en fait, cette donnée que c'était pas, voilà, c'est effectivement, c'était pas si naturel que ça, d'arriver dans un pays étranger, de filmer librement. Et donc, voilà, ça m'a guidée quelque part, c'était comme un garde-fou permanent. Mais bon, une fois qu'on était parti, on était parti, et j'ai filmé.
Oui. Et ces très beaux poèmes, il a un éditeur?
Et non, ou... alors justement, à chaque fois que je peux le faire, je lance un appel. On a été très occupés par le film, la sortie du film, etc. Mais c'est vrai qu'on aimerait beaucoup que ces textes puissent être publiés. Ils sont très beaux, voilà. Vous pouvez vous en rendre compte dans le film. Mais il y en a plus que ça, parce qu'évidemment, il a écrit tout au long du voyage énormément de textes. Et il n'y en a dans le film qu'une toute petite partie. Donc voilà, tous les textes qui ont été écrits à l'occasion du tournage du film mériteraient largement d'être publiés. Donc voilà, si quelqu'un écoute ce podcast, un éditeur ou quelqu'un qui a une idée d'éditeur écoute ce podcast, qu'il n'hésite pas à contacter Anne, et qui ensuite me fera passer le mot.
L'appel est lancé. Je serais ravie si quelque chose pouvait se passer dans ce sens, parce que vraiment, je me suis posé cette question pendant le film en l'écoutant, parce que ce n'est pas juste des beaux mots, c'est un bel esprit derrière. Ça mériterait d'être connu du plus grand nombre. Vous deviez faire une drôle d'équipe, tous les deux, quand vous arriviez, lui avec son petit cahier et son crayon, toi avec ta caméra. C'est quand même une aventure un peu inédite.
Oui, on était... Quand on arrivait quelque part, effectivement, on était un drôle de duo, à la fois moi, Blanche. Bon, j'avais pas la caméra dans les mains quand on arrivait dans un village, hein. C'était pas l'idée du tout, au contraire. Mais voilà, ne serait-ce que Bicontine, et puis Bicontine avec son gros sac sur le dos. Donc déjà, il y avait ce Burkinabé, en plus une Blanche qui parle de faire un film avec une caméra et tout ça. Donc c'est sûr qu'au départ, les gens étaient très étonnés, mais en même temps, ça les amusait parce qu'ils nous voyaient tout seuls, tous les deux, avec nos gros sacs. Et puis quand on leur parlait du voyage qu'on était en train d'entreprendre, c'est quand même 600 km. Alors on n'a pas marché, on a pris le train bien sûr et tout, mais quand même c'était pas rien de faire ce long parcours. Donc voilà, très vite, on était, ils étaient presque en empathie avec nous, ils voulaient nous aider, voilà. Donc le fait qu'on soit que deux, ça, et qu'on soit un peu en galère quelque part, ça a tiré, ça nous a permis tout de suite de nouer des relations avec les habitants des villages dans lesquels on s'est arrêté.
Cette voie de chemin de fer, cette fameuse voie de chemin de fer en ligne conductrice, comment est-elle arrivée dans le décor? Parce qu'en fait, c'est toute une histoire à elle toute seule, cette voie de chemin de fer. C'est...
Tout à fait, Anne.
Elle s'est imposée, j'imagine.
C'est exactement ça. Elle s'est imposée, oui, on peut dire ça au départ. L'idée de voyage était là. C'est quelqu'un qui lisait le projet qui m'a dit, mais vous allez aller où? Ça va être quoi votre itinéraire? Parce que vous ne pouvez pas vous balader au hasard, ça n'a pas de sens en fait. Donc évidemment, c'était tout à fait pertinent et j'ai réfléchi. Et puis dans mes allers-retours au Burkina, j'ai entendu parler de cette voie ferrée. En gros, les gens se déplacent plutôt en bus et c'était mon cas aussi. Voilà, maintenant le bus malheureusement est en train de supplanter le chemin de fer. Donc moi j'ai entendu parler du train mais pas sans plus. Et puis j'ai en creusant un peu les choses, j'ai vu que j'ai compris qu'il n'y avait qu'une seule voie de chemin de fer. Donc il y a un côté très simple, très limpide comme ça, qui fait une grande diagonale à travers le pays. Donc ça permet de traverser des paysages différents, des groupes ethniques différents, des réalités économiques, agricoles différentes. Et puis, bien sûr, il y a un rapport à l'histoire, puisqu'elle a été construite d'abord pendant la colonisation française. Donc, elle part d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, et puis elle remonte comme ça au nord jusqu'à Ouagadougou. Mais sous Thomas Sankara, enfin à l'initiative de Thomas Sankara, la voie ferrée a été prolongée de 100 km jusqu'à Kaya, voilà, entre Ouagadougou et Kaya. Et cette partie-là de 100 km a été construite sans aucune aide extérieure, puisqu'elle a été refusée, hein, Thomas Sankara avait demandé, mais là, elle a été refusée. Et ce sont les Burkinabés voilà, qui ont porté eux-mêmes, comme on le voit dans le film, dans des archives, on voit les Burkinabés qui portent eux-mêmes les rails. Donc évidemment, il y avait des ingénieurs qui suivaient l'opération, mais ça se passait de village en village. La population était invitée à participer aux travaux, section par section, village par village. Et ils ont quand même réussi à construire 100 km. Et malheureusement, après la mort de Thomas Sankara, qu'en 1987, très peu de temps après, les travaux se sont arrêtés. Le train a circulé sur ces voies jusqu'en 1995. Donc pendant 5, 6 ans, disons, le train a roulé. Et puis, quand le chemin de fer a été privatisé, ce segment a été considéré comme non rentable et donc il a fermé. C'est pourquoi, dans le film, en fait, on voit cette partie-là qui est à la fin du voyage, qui est en ruine. Ce sont des rails qui sont abandonnés, qui ne sont pas entretenus et qui sont pratiquement en ruine. Voilà, mais qui forment des décors très étonnants et très, très cinématographiques.
Mais il n'y avait pas eu une promesse que ce soit entretenu et que ce soit...
Si, tout à fait. En fait...
Qu'il y ait des travaux de rénovation.
Donc, à la privatisation, je ne sais pas si c'est Vincent Bolloré qui a tout de suite récupéré la concession, mais assez rapidement, Vincent Bolloré, enfin une filiale du groupe Bolloré a pris la concession, a eu la concession. Ils se sont engagés donc en échange de l'exploitation de la voie existante, ils se sont engagés à entretenir la voie existante et à réhabiliter la partie qui était en ruine. Oui. Et ça, je pense que c'était il y a 10 ou 15 ans ou 20 ans et qu'il n'y a absolument eu aucun travaux d'effectués pour l'instant. Voilà.
Et donc cette voie de chemin de fer, est-ce que vous la suiviez ou vous l'avez empruntée? Vous voyagiez en train jusqu'à la partie qui fonctionne
Oui, on a pris le train. Alors d'ailleurs, le train, ça paraît pas aussi, c'est pas aussi simple qu'en France, par exemple. Les trains de marchandises circulent assez librement et régulièrement, mais par contre, le train de voyageurs, lui, ne passe que, dans un sens en tout cas, il ne passe que tous les 2 ou 3 jours. C'est-à-dire, sur une semaine, il passe de 2 jours en 2 jours, et puis à la fin, il y a 3 jours qui passent. Donc, ça fait qu'il n'y a que 3 trains par semaine, dans un sens. Donc, c'est vrai que c'est un tempo, voilà, qui nous a été un peu imposé, et que parfois, ça ne nous arrangeait pas forcément parce qu'il fallait attendre. Mais bon, ça fait partie du voyage aussi. Et ça nous a permis parfois d'assister à des choses ou de tourner des choses qu'on n'aurait pas tournées s'il n'y avait pas eu cet aléa du train en pointillé. Donc, on a pris le train, mais effectivement, après Ouagadougou, la voie étant inexploitable, on a marché.
On le voit, hein, Bicontine, le long de cette voie ferrée complètement délabrée, là, qui est en ruine, oui, avec des grandes herbes. C'est désolant. Tout à fait. Quoi, on voit le... Alors, en fait, tu as composé un portrait du Burkina Faso, de cet endroit du monde, à ce moment donné, de façon impressionniste, en fait, avec une succession de rencontres, de situations, de paysages aussi. Mais comment ça s'est passé ? Parce qu'en fait, chaque passage, chaque rencontre ou chaque situation, je me disais, il y a forcément beaucoup de travail en amont, parce qu'il y a une intensité dans chaque situation ou dans chaque parole qui est dite. Je pense par exemple avec le médecin. C'est très, très beau, cette séquence avec le médecin et Bicontine qui s'interroge sur son avenir et ce médecin qui est très bienveillant. C'est vraiment une très, très belle séquence. Comment ça s'est passé pour réussir à avoir autant de choses, de belles phrases, de choses qui sont significatives par rapport au sens de l'ensemble du projet ?
Alors, c'est tout un travail, parce que c'est vrai qu'entre janvier 2015, le moment où j'ai décidé d'écrire, de commencer à écrire le projet, et la fin du montage, janvier 2019, 4 ans, hein, c'est quand même 4 ans de travail. Donc, c'est vrai que d'abord, il y a eu toute une partie d'écriture, de réflexion, de développement, qui se fait notamment en collaboration avec la productrice du film, qui s'appelle Eugénie Michel-Villette, et puis d'autres lecteurs, enfin voilà, et puis les allers-retours au Burkina, les discussions avec Bicontine. Donc voilà, c'est nourri de tout ça que ensuite je peux partir en tournage. Donc, au moment de partir en tournage, j'avais quand même pas un scénario du tout. On savait même pas quelles personnes on allait voir et rencontrer. J'avais une idée quand même assez globale de ce qui pouvait se trouver un peu aux différentes étapes, comme par exemple la canne à sucre à Bérégadougou ou la fin des rails. J'avais déjà vu à quoi ressemblait la fin des rails en repérage. Donc voilà, on avait fait des repérages qui me donnaient quand même une idée de ce qu'on pouvait trouver dans certains endroits. Mais bon, le hasard aussi a fait au moment du voyage qu'on s'est arrêté dans certaines gares où ni Bicontine ni moi ne savions rien de l'endroit. J'avais beaucoup réfléchi au pays, à la place de Thomas Sankara dans le film, au pays, à la trajectoire du poète, qui s'interroge aussi sur est-ce qu'il va rester. Maintenant qu'il y a eu cette insurrection et que l'avenir semble différent, est-ce qu'il va vraiment pouvoir être heureux dans son pays ou est-ce qu'il va devoir partir ? Donc il y avait aussi cette interrogation sous-jacente. Donc j'avais comme un cadre auquel j'avais quand même beaucoup réfléchi, mais rien n'était préétabli. Ensuite, c'est vraiment le voyage. Alors, ça ne veut pas dire que c'est complètement le hasard. C'est aussi à chaque fois le fruit d'une réflexion. Quand on arrive quelque part avec Bicontine, on échange et on se dit, bon, là, c'est plutôt telle personne ou telle personne qui pourrait nous éclairer sur une réalité importante ou sensible en lien avec mise en perspective avec la mémoire de Thomas Sankara ou bien mise en perspective avec l'histoire et l'insurrection populaire. Et ensuite, je suis rentrée avec une grosse matière qu'on appelle les rushs. Donc, je suis rentrée avec un très, très grand nombre d'heures de rush. Bon, je tairai le nombre exact. et là, il y a eu un énorme travail au montage. On dit toujours que le montage, c'est une nouvelle écriture, hein, qu'on écrit le film. Ensuite, au tournage, on écrit une deuxième fois le film. Et au montage, on réécrit une troisième fois le film. Mais là, ça a été exactement ça. C'est-à-dire qu'on a... On a travaillé 1 an avec Nicolas Milteau, qui est le monteur du film, et que je connais très bien. Donc, c'est vrai qu'on a une grande complicité comme ça, et on se comprend très vite. Donc, voilà, on est sur la même longueur d'onde. Et lui, il travaille en fiction et en documentaire. Donc, c'est vrai que cette approche-là, cette expérience-là de la fiction, c'était aussi très utile pour aborder toute cette masse et essayer de raconter l'histoire de ce poète, l'histoire de ce pays.
Et alors, au début de l'histoire, donc tu le disais, la Bicontine a envie de quitter son pays, qu'il trouve un peu désolant. On sent qu'il n'a plus d'espoir là où il est, ce que l'on peut relier évidemment à la problématique actuelle des migrants. Donc, cette voie de chemin de fer, l'évolution de son état sur la longueur, sur la longueur géographique et aussi dans le temps, et puis Le long du film aussi, il y a vraiment toute une symbolique hein, avec laquelle tu as joué par rapport à cette fameuse voie de chemin de fer. Donc ça a été filmé, tu nous l'as dit, en 2017, 2-3 ans après la destitution de Blaise Compaoré. Et aujourd'hui, en 2020, puisque je sais que tu as fait des rencontres sur Internet après les projections sur Internet du film avec Bicontine. Donc, est-ce que tu peux nous donner un rapide état des lieux de lui, dans quel état il est aujourd'hui par rapport à tout ça et le reste des personnes que tu connais? Est-ce que l'espoir revient ou est-ce que vraiment c'est de pire en pire?
Donc pour répondre tout d'abord à la dernière question, donc Bicontine est toujours au Burkina Faso, il habite toujours à Bobo-Dioulasso. Là, les circonstances sont totalement exceptionnelles parce que ils ont subi le Covid, enfin très peu, mais en tout cas, bon, il y a ces circonstances vraiment particulières. Mais ces circonstances particulières se sont rajoutées à d'autres circonstances particulières qui étaient que les attaques terroristes se multipliaient et continuent d'ailleurs. Hein. Le Covid n'a pas arrêté les attaques terroristes. C'est vrai que les attaques avaient commencé un petit peu avant le tournage. Mais c'était très circonscrit au nord du pays. Aujourd'hui, ça s'étend beaucoup plus et elles sont beaucoup plus nombreuses, les attaques sont beaucoup plus nombreuses. Donc c'est vrai qu'il y a les Burkinabés, malheureusement, ils ont de très nombreuses difficultés en plus de leur crise politique. Voilà, c'est vrai que l'insurrection, les gens sont déçus de l'insurrection. Les gens sont déçus des suites de l'insurrection. L'insurrection populaire de 2014, elle a suscité un espoir énorme au sein de la population. Et aujourd'hui, les gens sont très déçus. Et le film, par sincérité, ou en tout cas, voilà, moi, même si c'est évidemment cet espoir-là, cet espoir fou-là, qui a été moteur dans mon envie de faire ce film, à un moment donné, si je constate que les gens sont déçus, je dois aussi en parler. Donc le film est désenchanté. Oui. Je ne dirais pas qu'il est triste, mais il est désenchanté. Il y a vraiment cette déception qui est là. Donc à cette déception politique, se sont ajoutées les attaques terroristes, puis la crise du Covid. Donc, aujourd'hui, le Burkina, malheureusement, c'est compliqué au Burkina. Maintenant, voilà, on espère que les choses vont s'améliorer.
Et tu voulais, je crois, que les femmes soient bien présentes aussi dans ce documentaire. Il y a notamment cette belle séquence en voiture où votre conductrice, à tous les deux, explique quelque chose sur la place des femmes, justement. J'aimerais bien que tu nous racontes ce petit passage.
Bicontine monte dans un taxi. Arrivé à Bobo-Dioulasso, c'est la deuxième étape du voyage. Bobo-Dioulasso, c'est la deuxième ville du pays, donc c'est une grande ville. Et il monte dans un taxi parce qu'il veut aller à l'hôtel de ville. L'hôtel de ville a été pris d'assaut par les insurgés en 2014 et incendié, pillé, etc. Donc, et puis, il n'a toujours pas été réparé ni réhabilité. Donc, c'est une espèce de ruine aussi, mais de ruine historique de l'insurrection. Donc, Bicontine veut aller là-bas et donc il prend un taxi. Et dans le taxi, la taxi-woman évoque le féminisme de Thomas Sankara. En tout cas, elle raconte très bien que Thomas Sankara, voilà, était vraiment précurseur dans l'avancée des femmes, en fait, dans la société, en fait, dans le rôle des femmes, par rapport au rôle des femmes dans la société, l'implication des femmes dans la société. Elle raconte qu'elle était toute jeune. Hein.
Oui, et par rapport à la statue.
Oui, pardon. Et donc, le taxi passe effectivement un rond-point qui s'appelle la place de la femme à Bobo-Dioulasso. Hein. C'est vraiment un repère géographique très important dans la ville. Et auparavant, en fait, la statue qui était place de la femme, c'était une femme qui balayait. Qui était courbée comme ça et qui balayait. Et finalement, elle a été déboulonnée et remplacée par une femme qui tient un flambeau. Donc, elle raconte ça aussi. C'est un peu voilà, la ville qui enregistre aussi l'évolution de la société. Et on y revient à cette place un peu plus tard, puisque Bicontine, c'est une grande ville, donc Bicontine reste un peu plus longtemps à cette étape. Et dans la nuit, en fait, il marche. Bicontine, il est insomniaque. Ah oui, c'est quelque chose que je pouvais dire aussi par rapport à la nuit, la présence de la nuit dans le film. J'y reviendrai après. Donc Bicontine est insomniaque et donc souvent il déambule la nuit. Et une des nuits passées à Bobo-Dioulasso, il croise des balayeuses de rue qui sont employées par la mairie pour nettoyer les rues quand il y a un peu moins de circulation. Et donc on a vraiment l'impression qu'elles font un travail sans fin. Parce que balayer de la poussière sur du goudron, bon, vous pouvez imaginer que c'est vraiment sans fin. Puis en plus, elles utilisent un balai africain. Enfin, en tout cas, c'est les balais qu'on voit au Burkina et je pense dans d'autres pays, au moins ouest-africains. C'est des balais sans manches. Donc, elles sont vraiment courbées. Elles sont pliées en deux pour balayer entre 4h du matin et 7h du matin tous les jours les rues de Bobo-Dioulasso. Voilà, donc c'est une mise en perspective aussi de... d'accord, donc la place des femmes, ou en tout cas, il y a une volonté politique pour que les femmes soient plus présentes et plus de poids dans la société, mais en revanche, quand on regarde bien la réalité, c'est plus complexe. Et en tout cas, avec cette tâche très ingrate, c'est vraiment flagrant. Et en même temps, ces femmes qui parlent, Bicontine ose leur adresser la parole et elles disent quelques mots. Et on voit qu'elles sont très, très dignes et très fières, notamment de ce monument de la place de la femme qui tient un flambeau. Bicontine leur demande, mais pourquoi, enfin, ça veut dire quoi cette femme qui tient un flambeau? Et elles disent, bah, parce que la femme, c'est la lumière du monde. Que penser d'autre, en fait?
Et qu'est-ce que tu voulais nous dire par rapport
aux
insomnies?
Oui, en fait, la nuit, pour moi, alors ça, c'était quelque chose à quoi j'avais pensé avant de partir en tournage. Je voulais filmer la nuit. Enfin, oui. je pensais que les nuits seraient importantes. Déjà parce qu'il fait moins chaud, donc les gens sont un peu plus détendus, ils ont plus le temps. On croise aussi d'autres personnes que le jour. Et aussi, Bicontine étant insomniaque, réellement, et là, l'habitude, de toute façon, de traîner un peu, ou en tout cas de se balader comme ça la nuit. Donc, il y a des nuits assez souvent dans le film. C'est aussi les moments où Thomas Sankara, les archives de Thomas Sankara surgissent. Donc, c'est aussi le lieu de la mémoire, notamment de Thomas Sankara. C'est le lieu de la poésie, car c'est souvent la nuit que Bicontine écrit ses poèmes. C'est le lieu du rêve aussi, puisque vers la fin du film, bon, on ne va pas divulgâcher ou spoiler, mais le train décolle dans la nuit de manière magique. Et on entend la voix de Thomas Sankara qui raconte ce voyage en URSS et qui dit qu'il a demandé aux soviétiques de réserver 2 places pour les Burkinabés dans la prochaine mission spatiale. Donc la nuit, c'est à la fois le cauchemar, c'est les peurs bien sûr, mais c'est aussi le rêve, la poésie et l'utopie de Thomas Sankara. Voilà.
Au travers des différents tableaux de ton documentaire, on aperçoit donc ce qu'il reste de l'héritage, de l'esprit de Thomas Sankara, avec des angles de vue vraiment très différents les uns des autres. C'est ça qui est vraiment pertinent, intéressant. Et donc, on aborde comme ça, on en a parlé par rapport aux femmes, à l'anti-impérialisme. Mais j'ai rien vu, par contre, sur l'écologie. Est-ce que ça m'a échappé ou...
Non, c'est vrai, c'est pas traité dans le film. Ça aurait pu. Mais
est-ce qu'il y a un héritage ou...
Oui, parce que par exemple, il y a énormément de campagnes de reboisement. Dans les villages, souvent, il y a des initiatives pour planter des arbres. Dans le milieu scolaire, il y a souvent des initiatives pour planter des arbres. Donc voilà, c'est des grands moments comme ça, très solennels aussi, où on amène des petites boutures et on va les planter. Et puis, il y a l'idée d'aller arroser régulièrement les arbres. Donc non, il y a une vraie conscience de ça, et même au-delà du reboisement. Oui. Simplement, le film, c'est comme toujours, on ne peut pas parler de tout. Il aborde déjà beaucoup, beaucoup de réalités différentes. Il donne la parole à des personnes très différentes les unes des autres. Il fait déjà 1h50. Alors, il y a les sankaristes convaincus, les grands admirateurs de Sankara qui trouvent que j'aborde pas assez toutes les œuvres de Thomas Sankara. Les pro-insurrection 2014 qui trouvent qu'il n'y a pas assez de choses sur le ballet citoyen, qui est... l'organisation de la société civile qui a initié l'insurrection. Enfin voilà, évidemment, il manque des choses. C'est pas un compte-rendu objectif, le film, évidemment, de la situation du Burkina aujourd'hui. C'est plus à travers l'expérience donc de ce poète, de ce jeune poète, et le ressenti de ce jeune poète. Donc forcément, il y a un filtre sensible, subjectif, émotionnel, qui fait que sa voix, il va être attentif à telle ou telle réalité plutôt qu'à telle autre.
Mais c'est ça qui fait que c'est très intéressant, je trouve, parce que justement, on a le... Parce que Bicontine, en fait, on sent par moments qu'il doute de son rôle de poète dans tout ça. Et ce doute et ce lien avec ce questionnement et ces rencontres, cette quête avec sa sensibilité qui est très présente. C'est ça qui rend le film, je trouve, beaucoup plus intéressant que... si on veut voir un documentaire sur la situation politique, à l'époque de Sankara, il y en a, j'en ai vu, et puis là, depuis, je ne sais pas. Et donc, il se demande quelle est la place du poète dans ce chaos.
C'est ça.
Et je trouvais ça intéressant parce que, en fait, ça entre vraiment en résonance. Parce que dans le contexte actuel, là, au moment où on discute ensemble pour cette interview, donc à peu près 3 mois après le début de la pandémie de Covid-19, je ne sais pas si tu as entendu, mais plusieurs voix se sont élevées en France et ailleurs, des scientifiques, des écrivains, alors qu'on est dans les choses d'urgence, des masques et de toutes les problématiques et les vaccins et les tests et tout ça. Et en fait, plusieurs voix donc, se sont élevées, des scientifiques, des écrivains, pour appeler à reprendre conscience de l'importance de la poésie dans le monde actuel. J'ai entendu Aurélien Barreau récemment parler de ça, et j'ai entendu ça arriver par plusieurs angles différents. Et dans ton film, tu accordes une large place à la poésie par les images, par le temps, par la musique de Rodolphe Burger, les poèmes de Bicontine. Quelle place a la poésie dans ta vie et pourquoi tu voulais qu'elle soit aussi présente dans ce documentaire?
Je lis peu de poésie, malheureusement. Je ne sais pas comment dire. C'est vraiment la poésie de... Il n'y avait pas une intention propre à ça en amont, ou une affinité particulière. Bon, j'aime la poésie, mais je ne suis pas... je suis pas une grande lectrice de poésie. Je devrais certainement en lire plus, mais comme tout le monde, je me fais happer par... 1000 autres choses pratiques beaucoup moins intéressantes. Mais c'est vrai que c'est tout simplement les poèmes de Bicontine qui m'ont plu. Voilà, et ce personnage de poète au Burkina, c'est voilà, déjà être dans l'art et la culture au Burkina, c'est déjà compliqué, mais alors en plus choisir la poésie, c'est comme se damner quelque part, hein. Donc, il y a ce côté un peu fou, cet engagement totalement vain quelque part, ou en tout cas gratuit, ce geste gratuit comme ça, de création qui le dépasse, hein. Il le dit très bien que tout d'un coup, il a envie d'écrire, il écrit des trucs, et puis après avoir écrit, il se rappelle même plus de ce qu'il a écrit, hein. Et puis il y a quand même cette question de sa place, ça il se la pose. Autant quand il écrit, souvent il dit que ça lui échappe, il se rend pas du tout compte de la qualité de ce qu'il écrit, etc. Mais par contre, il se pose beaucoup de questions sur son rôle de poète, d'artiste dans le Burkina d'aujourd'hui. Et je trouvais que c'était un questionnement à mettre en perspective avec l'insurrection populaire et l'avenir du pays. Enfin, pour moi, c'était la bonne manière de l'aborder, une manière très personnelle, en fait, et en même temps universelle, parce que ça pourrait être n'importe quel jeune qui se retrouve avec ces mêmes questionnements. Mais là, voilà, on a la poésie de Bicontine qui permet d'entendre avec ses mots sa manière de voir les choses, d'entendre vraiment très intimement, de manière très intime, ce que ce genre de questionnement universel peut provoquer chez une personne.
La musique de Rodolphe Burger, donc, j'avais peur que ça ne fusionne pas. Je me suis dit, tiens, c'est audacieux comme... Et en fait, ça marche super bien parce qu'il y a beaucoup de retenue. Il y a beaucoup
discret, tout à fait.
Vous avez travaillé comment? Tu lui avais donné un peu des orientations ou pas?
Si, des orientations très précises, dans le sens où en fait on a travaillé avec des morceaux qui préexistaient. Au moment du montage, on a essayé plusieurs choses avec le monteur, et c'est Nicolas Milto qui a eu l'idée d'essayer. Bon, moi j'avais des idées comme ça, mais c'est compliqué d'imaginer quelle musique. C'était quelque chose qui m'impressionnait un peu. J'étais pas très à l'aise avec cette question de la musique, parce qu'il y a la poésie de Bicontine qui déjà occupe l'espace sonore avec sa voix, avec sa diction, avec son timbre, etc. Et donc, je savais pas trop si la musique allait trouver sa place là-dedans. Qu'au départ, je pensais même pas forcément qu'il y aurait de la musique dans le film. Donc, c'est vraiment venu tardivement au moment du montage. Et on a essayé beaucoup de choses, et c'est voilà, grâce à cette idée du monteur qu'on a tenté la musique de Rodolphe, qui a marché. Qui marchait vraiment bien. Et en fait, je pense que ça marchait parce qu'on a choisi des morceaux, en fait, qui n'étaient pas complètement composés, mais où ils cherchaient, en fait. C'était des moments d'enregistrement en studio où ils cherchaient. Et donc, cet aspect un peu de tâtonnement, de recherche.
Oui, un peu.
Voilà.
La
mélodie se développe pas tout à fait. Elle se développe un peu plus vers la fin du film. Et à la fin, le générique, voilà, il y a une vraie... Voilà, c'est un très très beau morceau qui. Mais en attendant, soit c'est des tâtonnements comme ça, des petites cellules, soit aussi des fois la guitare s'énerve quand même, hein, elle est plus rageuse parce que voilà, la situation elle est révoltante, parce que il y a encore une envie d'autre chose et de changement dans la société burkinabé. Mais voilà, il y a aussi ce poète qui se cherche et donc cette guitare qui se cherche. Et en fait, tout ça fonctionnait bien. Et finalement, quand je l'ai appelé, il a vu le film avec ses tentatives. Bon, je ne savais pas trop comment il allait réagir, et il a trouvé ça super. Et il a retravaillé à partir de ça, en fait. Voilà, à partir de ce qu'on avait déjà posé sur le film.
Dernière question. Est-ce que cette première expérience de réalisatrice de documentaire t'a plu? Et est-ce que tu penses continuer?
Oui, bien sûr, ça m'a plu. C'est même au-delà de la... Au-delà. Alors, la réalisation... Ça m'a plu, mais ça va bien sûr au-delà de ça. Quand voilà, on s'engage à faire un film sur un pays qui n'est pas le sien pendant aussi longtemps. Voilà, c'est quand même 4 ans de ma vie. On peut dire que j'ai globalement consacré 4 ans de ma vie à ce projet. Donc, c'est une aventure humaine, personnelle, artistique. Voilà, c'est global et c'est vrai que ça m'a beaucoup marqué et j'ai bien sûr envie de continuer à faire des films.
Ouais. Oui, oui.
Les deux, parce qu'en fait, dans mon parcours d'assistante, j'ai plutôt travaillé en fiction, j'ai même fait une formation en écriture de fiction, donc j'ai aussi envie de faire de la fiction. Je ne sais pas comment ça va s'articuler, voilà, les différents projets, mais oui, il y a les deux. Il y a les deux. Mais voilà, juste je voulais dire que le faire un film, j'ai l'impression que ça a été pour moi une manière de vivre plus intensément les choses, en fait. Voyager pour voyager, bon, c'est une chose, mais voyager pour tourner un film, bon, tous mes films ne seront pas sous la forme d'un voyage, mais là, il s'avère que c'était un voyage, et c'est vrai que être dans la position de réalisateur, pour moi, en tout cas, ça a représenté une attention, une intensité extrême de tous les instants, en fait.
Oui, voilà. Surtout quand on fait le son, ouais. L'image et les interviews.
En plus.
Très bien.
C'est vrai.
Eh bien, Lucie, en tout cas, merci pour cette rencontre et pour ce beau film, parce que j'ai vraiment passé un très beau moment à le regarder.
Merci
J'encourage
à toi.
J'encourage tous nos amis auditrices, auditeurs, à aller cliquer maintenant sur les liens que je vais mettre en bas des textes que l'on pourra trouver sur le site SoSuite Planète, mais aussi sur toutes les applis de podcast. Cliquez, allez voir ce très joli film, c'est vraiment un beau moment. Et dans le contexte actuel, je trouve qu'il y a un écho qui est très intéressant, même si, voilà, nous, là, au moment où on se parle, on est sur un autre continent, dans un autre pays. Mais c'est très enrichissant.
Merci.
Et surtout, bonne continuation.
Merci.
Peut-être à une prochaine.
Oui, j'espère, pour un prochain film.
Voilà, c'est ça.
Ah si, alors je peux peut-être ajouter, que donc là, le film est en... On peut quand même peut-être préciser ça pour les auditeurs. Mmh. Donc le film, effectivement, est accessible en VOD. Mais on va quand même organiser avec le distributeur, en tout cas, c'est ce qu'on essaye de mettre en place, quand même des projections débat ponctuellement en salle quand les cinémas rouvriront.
Ah, très bien.
Ce seront les cinémas, les exploitants qui décideront de l'avenir de cette petite tournée.
D'accord.
Mais c'est vrai que voilà, après tous ces échanges virtuels, on a hâte de pouvoir quand même présenter le film en direct aux spectateurs. Voilà. Et le film aussi mérite... voilà, pour ceux qui veulent bien attendre que le film passe dans leur cinéma préféré, le film, voilà, mérite aussi la projection grand écran.
Oui, c'est clair. Moi, je l'ai vu sur, évidemment, petit écran, du coup, mais j'imagine que on le sent, c'est vraiment un film qui est fait pour être vu sur grand écran, pour rentrer, quoi, dans cet univers. Donc, pour terminer, est-ce qu'il y a un site, une page Facebook, ou pour les personnes qui voudraient suivre l'actualité du film, les séances en ligne ou les séances dans le monde réel?
Alors, c'est sur Facebook, oui, c'est la page de Météor Film. Météor au singulier, film au pluriel, c'est la société de distribution du film qui met en ligne le programme au jour le jour, semaine par semaine, au minimum.
Ok, très bien. Eh bien, merci beaucoup, Lucie.
Merci à toi.
Vraiment belle continuation. Au revoir.
À toi aussi, au revoir.
Chères auditrices, chers auditeurs, si vous avez apprécié ce podcast de SoSuite Planète, n'oubliez pas de lui mettre un avis favorable sur votre application de podcast, par exemple 5 étoiles sur Apple Podcast, et de rédiger un avis sympathique. Cela me fera plaisir. Pour plus d'informations sur les droits humains, l'environnement et la culture, vous pouvez suivre la page SoSuite Planète sur Facebook. Enfin, n'oubliez pas de vous abonner gratuitement, soit à la newsletter sur le site sosuiteplanète.com, soit au podcast sur votre application de podcast pour être informé des prochains podcasts de SoSuite Planète mis en ligne. À bientôt.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.